présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Dangereuse. Il y a beaucoup d'émeutes et d'attentats. L'oncle fait des conférences dans les églises délabrées pour exalter les jeunes anards à la révolution, à se révolter. Parallèle à la rue Bouteille, il y a la rue du Sergent Blandan, rue triste, où se trouve la fameuse radio C. Là, dans la rue, en passant près de la radio, elle rencontre un petit homme à cheveux blancs, maigre, avec une vieille gabardine beige tachée et un sac mac dégueulasse. Il la regarde bien et lui dit « Bonjour !» Je m'appelle Pierre Max. Je fais de la radio à Radio C. Tu veux venir à mon émission ? Elle lui dit. Je veux bien voir la radio, mais je ne parle pas. Eh bien, va. Alors, il la fait rentrer à la radio. Et elle fait la connaissance de Robert, le père de François. Pierre Max lui dit « La radio est de gauche, mais moi, je suis de droite et je dis ce que je veux. » Et Elle va de temps en temps à la radio lorsqu'elle passe devant. Quoique son oncle y va, c'est pour exciter les jeunes. Les exciter à l'émeute. Dans les infos, 19-20. Cliff déprime parce qu'il a perdu Brigitte. La guerre continue et s'enlise en Afrique. Les attentats en France sont de plus en plus nombreux. Tout ça donne beaucoup de commandes aux entreprises Tremblant et à ses associés. Maurice Tremblant, qui aime beaucoup la mère de Cliff, Bélusine, se dit que Cliff doit retrouver son rang, en quelque sorte, et puis c'est un homme à marier. Il convoque Judith et lui dit « Puisque c'est vous qui vous occupez de Cliff Recourtois, je vais vous demander c'est de lui trouver une place qui puisse le remettre à son rang. » Judith lui dit, « Ça ne sera pas facile. Cliff n'a pas de diplôme et n'est pas qualifié. » Elle réfléchit et lui dit, « Je vais voir. » Oui, je vais voir. Et une heure plus tard, elle fait venir Cliff à son bureau, lui dit, nous avons décidé de te donner un poste plus adéquat à ton rang. Voilà. Après avoir bien réfléchi, puisque tu n'as pas de qualification, nous avons donc pensé, c'est de faire de toi en quelque sorte un ambassadeur du groupe Tremblant. Comme notre président ne peut pas être de partout, tu le remplaceras. Pour des inaugurations officielles, pour la présentation de nouveaux produits, pour la vente d'entreprises à acheter, pour la visite de nos filiales, pour voir si tout va bien, contrôler leurs produits. À chaque fois, nous te préparerons et nous te donnerons un dossier très précis qui te dira ce qu'il faut faire, dire et contrôler. Es-tu d'accord ? Cliff dit, oui, bien sûr, merci. Elle lui dit, il va falloir aussi c'est que tu apprennes à conduire à cause de tes nouvelles fonctions. Bien entendu, tu prendras l'avion et le train. Nous allons te former pour ce nouveau poste. Cliff se dit que tout ça va lui donner du changement et le distraire. Il suit un stage pour apprendre ce que c'est que les entreprises Tremblant et prend des cours de conduite. Puis Judith lui trouve un nouvel appartement plus luxueux dans la même rue où il habite. Une fois qu'il est prêt, il commence ses visites officielles dans les entreprises. Il est bien reçu avec honneur et respect. Comme il est le représentant de Franplan, il va voir les entreprises au lieu. Bouillot est furieux. Cliff fait celui qui ne le voit pas. Il a un dossier très sérieux sur lui. Et Cliff passe en revue tous les produits qui se créent dans son usine. Il fait des critiques sanglantes sur les défauts qu'il voit, la qualité des matériaux et leurs mécanismes. Il lui dit, sur votre contrat, il est précisé la qualité du matériau et sa façon de le fabriquer. Vous devez exécuter ce qui a été prévu sur le contrat. Autrement, il sera annulé. Je vous donne un mois pour respecter ce que vous devez faire. Si ce n'est pas fait, nous annulons les commandes. Puis, comme les usines de Beaulieu sont près de chez sa mère, il va la voir. Elle est surprise et heureuse de le voir. Très ému, elle le reçoit dans son salon. Elle le prend dans ses bras. Que je suis heureuse que tu sois près de moi. Tu as l'air bien et tes malaises. Il lui dit, j'en ai pas pour le moment. Et toi, comment vas-tu? Elle lui dit, je passe mon temps à penser à toi et à me demander ce que tu deviens. Et il passe la journée avec elle à lui dire ce qui lui est arrivé. Il décide de rester 2 jours chez sa mère, puis la quitte. Elle se sent plus rassurée, la pauvre. Elle ne sait pas que ces nouvelles fonctions vont lui faire faire de ces choses. On l'envoie en Afrique pour remonter le moral des troupes. Et puis ça fait bien. Il visite les champs de bataille.
Sergent,
parle des armes, mais il n'y connaît pas grand chose. C'est surtout un ambassadeur moral qui va là-bas.
Sir,
Judith lui a donné un dossier secret qui donnera au chef des armées. Il dit que l'arme la plus efficace, c'est le sida. Les Africains sont musulmans. Et c'est pour cela qu'ils sont contre nous. Parce que les musulmans les
étiquent. Je crois qu'il serait bon de revoir nos méthodes de tir. Sir. Sergent.
Attention! Avant commandement! Il était contre les Américains et contre Franblanc. Monsieur de Jean-Jus reçoit l'ordre d'aller voir le pape pour qu'il évangélise l'Afrique et arrête son œcuménisme, qui supprime le catholicisme. Et on lui dit que des religieux sont des gauchistes. Il y a beaucoup de curés gauchistes. Et que cet œcuménisme annule le catholicisme parce qu'il dit que toutes les religions se ressemblent. Donc si toutes les religions se ressemblent, ça veut dire que ça, que la religion catholique vaut bien mieux que les autres, etc. Le pape lui dit qu'il va réfléchir. Puis il dit à M. de Nanjou qu'il a trouvé une solution. Oui, il a trouvé une solution pour évangéliser. Créer des saints, des miracles. Une jeune fille qui entend un ange lui dire que Jésus va sauver l'Afrique. Un homme est guéri par un prêtre qui a mis la croix sur sa poitrine. Un homme est torturé, malgré tout ça, prie Dieu, etc. Mais toutes ces choses sont très compliquées et prennent du temps. Parcourt l'Afrique en Égypte avec deux soldats près de lui. Il se dirige vers le siège de la ville où se trouve la guerre. Cliff parcourt l'Afrique en Égypte avec deux soldats. Il se dirige vers le siège de l'armée qui est près de la ville où se trouve la guerre. Il sillonne une savane désertique, jaune, avec quelques arbres qui semblent morts. On ne voit aucun animal. Ils sont soit enfuis, soit tués à cause de la guerre. Le siège de l'armée se trouve à quelques kilomètres. En passant sous un arbre, saute une branche sur la voiture des Africains qui était cachée dans l'arbre. Ils sont armés, nus. Ils ont sauté sur Cliff, le chauffeur et les soldats. Cliff, surpris, veut sortir de l'emprise de l'homme qui le tient bien. Mais il ne le peut à cause du manque de place. Et l'homme est très fort. Le chauffeur ne peut plus tenir le volant. Et la voiture roule à vive allure dans tous les sens, n'importe comment, en faisant des zigzags, c'est même dangereux. Cliff, qui est dans le siège, sur le siège arrière, a l'homme sur lui. Il lui a mis un couteau à la gorge. Le soldat qui est à côté du chauffeur, l'homme qui est nu sur lui, lui a tiré dessus, le sang gicle sur le visage du tueur. Le chauffeur a peur qu'on lui fasse la même chose. Tout se passe sans parole. Les assaillants ne parlent pas. Et les autres ne peuvent pas parce qu'ils ont une arme à la gorge. Kif se demande ce qu'on va faire d'eux. Heureusement qu'il n'a pas de dossier secret franc-blanc ou du Vatican. La voiture file librement à vive allure. Le soldat qui a tué le noir qui a tué le soldat se penche pour la freiner. Elle s'arrête d'un coup. Personne ne bouge. Ils sont tous essoufflés. Puis les noirs se redressent tous. Cliff et le chauffeur, ils le mettent, les sortent de la voiture. Ils les mettent en joue. Les soldats sont devant la voiture aussi. Cliff et les soldats sont à côté. La voiture, dont les freins ont été mal actionnés, se met en marche. Qui a fait reculer les noirs qui étaient devant la voiture. Et ils se sont sauvés en laissant leurs armes. Cliff et les soldats en profitent pour se sauver. Ils se mettent à courir, courir, courir. Les autres ont repris leurs esprits et leur courent après. Cliff et les soldats courent très vite et en zigzag. Les Noirs ont oublié de prendre leurs armes qu'ils ont laissées à terre. Cliff est essoufflé. Il court, il va droit devant lui. Il ne sait pas où il va. Il ne peut pas s'arrêter. Les Noirs se rapprochent de plus en plus. Explosion et des flammes. Les deux hommes qui les poursuivaient sont à terre, morts, déchiquetés. Une Jeep s'est arrêtée devant eux. Il y a des soldats dedans. Un soldat lui dit: nous avons vu venir de loin et vous étiez poursuivi. Nous sommes venus à votre secours. Je suis le commandant Florent. Et vous? Recours-toi, Cliff, envoyé spécial de Franc-Blanc, commandant le dit. Vous êtes près de la zone du siège de la ville où se trouve notre régiment, Cliff dit. Je devais justement vous voir. Alors montez, nous allons y aller. Et la Jeep le mène aux troupes. C'est tout près du siège de la ville. Il y a des milliers d'hommes et beaucoup de matériel. Hey! explique et présenté au commandant en chef du siège. Il lui explique ce que font ses troupes. Et donne à Cliff un logement un peu en retrait des batailles. Cliff voit que la ville est bien protégée, entourée d'un grand mur, et qu'elle a des armes sophistiquées, radars, appareils, gages et bombes, etc. La ville semble imprenable. Les avions ne peuvent pas la bombarder à cause des ondes radar qui risquent de leur créer des accidents. Les soldats sont démoralisés. Le siège dure depuis très longtemps. Cliff décide c'est de rester un moment avec les troupes pour remonter le moral, participer à la bataille.
Mon bouclier, celui à qui je donne ma foi.
Et Cliff se bat avec les hommes. Bataille fait rage. Tout autour du fort de la ville, fortifié, se bat dans la poussière.
Béni soit le Seigneur, ma force qui conduit mes mains à la guerre et mes doigts au combat.
Il se bat au corps à corps. Les noirs tombent sur les soldats comme des singes, aussi souples qu'eux.
Ma miséricorde,
avec des haches, des poignards,
mon fusils. Danger, mon libérateur.
Cliff se bat avec acharnement.
Il est
mitraillette.
Celui à qui je donne ma foi.
Et un poignard pour sur l'ennemi en tirant. En tirant et tuant. On lui court après, il tourne en rond et en même temps il tire sur ses poursuivants. Mais un noir effonce sur lui, il fait perdre sa mitraillette. Et le fait tomber à terre. Cliff essaye de sortir de l'emprise de cet homme très grand et très fort. Il est sous lui, avec ses poings, ses pieds, se débat comme il peut. Le noir se soulève légèrement, et met une lame sur le visage de Cliff, qui lui a le réflexe de prendre un poignard et de l'enfoncer dans le ventre de l'homme qui tombe à la renverse et libère Cliff. La bataille ne se fait pas qu'au corps à corps. Il y a aussi des chars d'assaut, des lance-flammes, des robots. Les noirs aussi sont bien équipés. D'ailleurs, ils ont le même fournisseur, Franc Blanc. Cliff, en se battant, que Panthère est très bien, s'est fait remarquer par l'ennemi. Se sont renseignés pour savoir qui il était et ont appris que c'était Cliff Rocourtois. Toute la ville parle de lui et de ses exploits. Jean rêve de ce jeune homme dont elle a vu les photos dans les magazines à Paris et qui maintenant se bat pour la délivrer. Et il se bat comme un chien. Elle en est fière. Elle le dit à son amant dans leur chambre. Yves, te recours-toi, se bat comme un lion pour me délivrer. Il se bat comme un chien. Personne ne peut le battre. Il est beaucoup trop fort. Il paraît qu'il est très beau. Il l'a giflé et lui dit, il te plaît, hein? Elle lui dit, j'aime les hommes. Qui gagne? Et lui est fort et jeune. Il lui dit, je suis plus fort que lui. Et je te le prouverai. Toi, tu ne te bats jamais. Tu restes entre tes murs. Lui est un homme. Il se bat. Il est furieux contre elle. Et la quitte. Il l'incerne d'entendre parler de ce jeune blanc-bec qui ressemble à un gosse dégrossi. Il va lui faire sa fête. Et le lendemain, le guerrier Ben Ali le Grand sort de la ville pour se battre. Il est entouré de son armée et des chars. Il est sur un char. Il fait rage. Son armée entre dans la bataille. Il se trouve dans une armée de chars. Là, il cherche ce clip au milieu de la foule. De la bataille. Il sait que Cliff est habillé non en soldat, mais porte une saharienne. Il est blond et très jeune. Enfin, il le trouve. Oui, il le trouve. Il se bat comme un forcené. En tirant à la mitraillette. Je ne vois. Sort du char et va vers lui. Cliff voit un grand homme fort long. Il s'avance vers lui. Cliff vise. L'homme a tiré sur son arme qu'il a fait lancer à Cliff. Cliff est désarmé. Il prend son poignard. L'homme s'avance vers lui. Il a lâché sa mitraillette et prend ensuite son poignard. Les autres combattants leur laissent le champ libre. C'est un corps à corps qui va avoir lieu. L'homme demande à Cliff, tu sais qui je suis? Cliff lui dit, non, je suis Ben Ali le Grand. Cliff lui dit, et moi? Recours-toi, envoyé de Franc-Blanc. Je le sais, et je viens te donner une bonne leçon. Et d'un coup, il fonce sur Cliff, qui a tout juste le temps de se retirer. Ils se font face. Poignard à la main. Tourne en rond. Tout d'un coup, Je me vois face au soleil, le poignard de Cliff brillant, il brille et l'aveugle. Il met la main à ses yeux. Cliff en profite pour foncer sur lui et le fait tomber à terre. C'est le déséquilibre, je ne vois. Il est sur lui. L'homme est furieux. Rage, sue. Cliff le maintient bien sur lui. Je le vois lui crache à la figure. Cliff se soulève légèrement. L'homme, d'un coup de tête, veut tomber à la renverse Cliff. L'homme se redresse et court pour aller chercher son arme qui est tombée. Cliff, furieux, court vers lui. Il fonce sur lui et le fait tomber à terre. Ils roulent tous les deux dans le sable. Le vent s'est levé. Le sable entre dans les yeux. Ça les aveugle. Cliff essaie de bloquer l'homme. Mais il se débat, furieux et plein de haine. Il réussit à sortir de l'emprise de Cliff et se met à courir. Il se met à courir, autour de la ville. Cliff le poursuit, il court de plus en plus vite. Mais je le vois à le temps de sauter sur une Jeep en vitesse et de la mettre en route. Cliff, lui, a pu s'accrocher derrière la Jeep sans qu'il le voie. Et je le vois furieux, humilié devant ses soldats et l'ennemi, entre dans la ville. Il a Cliff accroché. Il est accroché, mais il a fait en sorte de ne pas être vu. Il est soulagé. Cliff est très souple et adroit. Il a réussi à s'accrocher, se tourner et se mettre sous la Jeep. Pour entrer dans la ville, la porte fermée, humilié, furieux. Je le vois, sort de la Jeep et la laisse. Il a été humilié par un blanc bec. Cliff est soulagé. Il entend les bruits de la guerre. Il voit des chars. Il n'ose pas bouger. Il se dit qu'il est entré dans le camp ennemi. Se dit qu'il risque sa vie. Peut-être que s'il est pris, il est un prisonnier de choix, guerrier et en plus représentant de Franc Blanc. Il attend, il a chaud, très chaud, de peur et de chaleur. Et puis, ses bras, ses mains lui font mal à force de tenir les barres qui sont sous la voiture pour le cacher. Il attend. Il attend. Attends. Puis, il voit le jour s'estomper. Les bruits diminuer. Les bruits de guerre diminuer. Il n'entend plus rien. Il se dit qu'il ne peut pas rester comme ça. Alors, délicatement, en faisant bien attention, en regardant bien autour de lui, autour de la Jeep, il sort. Sale et transpirant. Voit que tout est vide autour de lui. Il fait une lumière. Il voit de loin qu'il ne peut pas sortir de la ville parce que la porte est bien protégée. Il se dit qu'il doit se coucher dans la ville en attendant. Peut-être lorsque les soldats sortiront de la ville, dans la foule, il pourra sortir. Il s'enfonce dans le noir, en longeant les murs. Il se dit qu'il est blond et peut habiller en clair. Il fait quelques pas pour se cacher. Entend des pas de soldats qui font des rondes. En se cachant dans un renfoncement, il voit qu'il se trouve dans l'entrée d'une maison. Le couloir est vide. Alors Cliff se faufile pour entrer. Et là, il voit une porte. Par curiosité, il entre. C'est une chambre, sûrement une chambre de bonne, parce qu'elle est misérable. Juste une paillasse à terre. Il y a un placard. Par curiosité aussi, il l'ouvre. Et il trouve une tenue de femme, noire. Vite, il le met. Ça sent mauvais. C'est sale, parce que les femmes se mouchent dedans. Mais il se dit, à la guerre, comme à la guerre. Et une fois habillé de ce vêtement, qui le cache en entier, il sort de la maison. Il se sent plus en sécurité. Et puis, on ne va pas faire attention à une pauvre femme habillée comme ça. Une femme, c'est rien du tout aussi. Il longe la rue, plus détendu, et se dit qu'il faudra bien qu'il trouve un endroit pour la nuit. En passant devant une rue, il y a un grand mur. La porte est restée ouverte. Il voit que c'est un jardin. Alors il se dit que dans un jardin, il pourrait être tranquille. Entre dans l'arche jardin. Ça sent la rose. On entend le bruit d'une fontaine. Tout autour du jardin, il y a un préau avec des colonnes. Il s'avance dans le jardin. Tout d'un coup, une main se met sur son épaule. Il se retourne et voit une femme habillée comme lui. Elle lui dit, ne reste pas ici. Tu n'as pas le droit, la nuit, d'être dans le jardin. Viens, entrons. Pour plus de compréhension, tous les dialogues sont en version française. C'est parce que si on faisait l'original, il n'y aurait pas des sous-titres. Mais pour certains qui connaissent les langues africaines ou autres, ils peuvent se mettre devant leur poste et traduire pour faire la langue originale, comme les puristes gauchistes qui caviar, qui aiment ça. Cliff, avant de partir, a eu des cours de langue africaine. Il se sent obligé de suivre cette femme. Elle le fait rentrer dans la maison. Et lui dit, rentre chez toi. Et elle le laisse. Lui longe le couloir vide. Et pour éviter d'être vu, monte à l'étage. Suit un couloir. Et là, il voit approcher un garde. Vite! Il ouvre une porte au hasard. C'est une chambre, une grande chambre, avec un lit, un grand lit, de grandes fenêtres. Bon, il y a les rayons de la lune qui passent. Quelque chose semble bouger du lit. S'apprête à s'en aller. Qui est là? Il a peur de bouger, d'éveiller et d'être surpris. Malheureusement, elle sort du lit, s'approche, le retourne. Et on y voit suffisant et lui dit, mais je ne te connais pas. Quels sont ses yeux? D'un geste, elle lui découvre le visage. Elle est surprise. Mais il est rouge, il a peur. Elle lui dit, je te connais. Tu es Cliff. Oui, Cliff. Il lui dit, je vous en supplie, ne dites rien. Il lui dit, ne fais pas de soucis. Je suis bien trop heureuse de t'avoir dans ma chambre. Je suis Jeanne. Elle le regarde et lui demande, mais que fais-tu accoutré comme ça? Il lui dit, votre mari s'est battu avec moi. Il m'a fui. Alors, je l'ai poursuivi jusqu'ici. vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Guerre. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.